Bonjour, je vous apporte les salutations de l'église La Maison de l'Évangile à Morchevillers-le-Bas, à côté dans la banlieue de Mulhouse. Ça fait 2 ans que je suis pasteur là-bas et avant ça j'étais pasteur en Suisse, d'où mon accent et ma lenteur dans l'élocution. Vous allez voir, c'est bien vrai, les Suisses sont plutôt lents, mais c'est comme ça. Voilà, il faudra vous y faire. Je ne sais pas si, quand vous regardez le journal télévisé, quand vous regardez ce qui se passe ou ce qui risque de se passer avec les élections présidentielles, il vous arrive de vous dire qui est-ce qui commande vraiment dans cet univers? Qui est-ce qui est en contrôle? Parce que vous avez l'impression que le mal l'emporte, que l'immoralité, la cruauté, la violence, le vol, la malhonnêteté se déchaînent de plus en plus. Est-ce que c'est chrétien de se poser une telle question? Est-ce qu'on ose s'approcher de Dieu même avec cette question-là? Oui. Oui, parce que le psalmiste l'a fait. Dans le psaume 2, il s'approche de Dieu avec cette question: pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Et non seulement il l'a fait, mais il a eu une réponse en plus. Ce qui veut dire que Dieu lui-même était prêt à répondre à cette question que nous pouvons nous poser parfois. Et il l'a fait dans ce psaume que nous allons lire maintenant, donc psaume 2, page, je n'ai pas la même Bible, donc je ne sais pas, 369, d'accord. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. C'est un psaume. Les psaumes sont des cantiques écrits sous forme poétique. Et si un jour vous avez essayé d'écrire une poésie, vous savez très bien que ça ne coule pas de source, qu'il faut du temps, de la réflexion, jusqu'à ce que chaque mot, chaque idée soit bien mise à sa place. Donc, vous voyez, ce psaume n'est pas tombé du ciel comme ça, même s'il est inspiré de Dieu. L'auteur a réfléchi au développement de sa pensée, il a réfléchi aux mots qu'il allait mettre à chaque endroit pour nous transmettre une idée vraiment importante. C'est-à-dire pour répondre à la question, pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Et il a donné une forme à ce psaume, une forme en 4 strophes, de 3 versets, qui développe la pensée jusqu'à un appel à la fin, aux nations, à répondre à la réflexion, en fonction de la réflexion qu'il a développée dans le psaume. Donc je vais simplement suivre les quatre strophes de ce psaume qui formeront les quatre points de cette prédication qui va nous montrer que Christ est souverain sur les nations. Première strophe, versets 1 à 3, nous voyons l'arrogance des nations. Quand le psalmiste regarde les nations qui l'entourent, les nations du monde, comme vous regardez, vous, l'actualité à la télévision, que constate-t-il? Il les voit agitées, verset 1er. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Et les peuples ont-ils de vaines pensées? Il les voit agités comme une mer dont les vagues se forment sans discontinuer. Elles semblent toujours nouvelles, ces vagues. Mais en fait, c'est toujours la même eau qui revient. Ainsi en est-il des vaines pensées et des habitudes du monde. Elles semblent toujours nouvelles. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ce sont presque toujours les mêmes pensées, les mêmes idéologies qui reviennent avec une sauce un tout petit peu différente. C'est un peu comme la mode. Quand mes fils m'ont vu en photo à l'âge de 18 ans, avec les pantalons et les lunettes de soleil que j'avais, ils m'ont dit « Oh, est-ce que tu les as encore ?» J'ai dit, mais bien sûr que non, c'était complètement démodé après. Puis ils m'ont dit, mais parce que c'est juste la mode d'aujourd'hui, et si tu les avais encore, on aurait pu les mettre. C'était la vague suivante, vous voyez. Même mode qui revient. Et quand on regarde les nations et les idéologies du monde, c'est comme une mer qui revient des vagues de la mer. Et qu'est-ce qu'on constate ? L'auteur nous dit au verset 2 que ces peuples qui semblent agités tout seuls, en fait sont dirigés dans leur mouvement par des rois, des princes, des gouverneurs qui se liguent ensemble. Verset 2, les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble. Ils se liguent ensemble dans quel but? Il l'explique dans la suite du verset et au verset 3. Ils se liguent contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Les nations du monde s'agitent contre Dieu et contre son Messie. Ils rejettent ses lois parce qu'ils croient que ces lois établies par Dieu sont des liens, des chaînes qui nous rendent captifs. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Les gens croient que l'enseignement de la parole de Dieu, que les principes et les lois de Dieu sont des chaînes, des rabat-joie qui empêchent d'être libres et épanouis. C'est pourquoi ils se révoltent contre ces lois, comme Adam et Ève dans le jardin, comme Hérode lors de la naissance de Jésus, qui pensait que cette naissance allait nuire à son pouvoir et qui a voulu le mettre à mort tout de suite. Voyez, la haine des nations, de leurs gouverneurs, contre le Seigneur Jésus, était déjà annoncée là, plus de 1000 ans avant sa naissance. Alors lorsque nous considérons notre situation mondiale actuelle, nous pouvons dire qu'elle n'est pas bien différente de cette description qui est là. Il y a aussi des peuples, des gouvernements qui s'allient afin d'augmenter leur puissance avec le désir plus ou moins caché de maîtriser toute chose et de prendre la place de Dieu. On continue à rejeter sa loi au profit de lois iniques, immorales, par lesquelles on incite les peuples à appeler le mal bien et le bien mal. ils mettent les valeurs établies par Dieu, comme le mariage hétérosexuel, la famille, le travail bien fait, le respect de la vie et de la propriété d'autrui, ils les rejettent. Ils s'allient pour persécuter ses enfants, empêcher de rendre les croyants à rendre un culte dans bien des pays aujourd'hui. Et voyez, on peut tous penser à des situations que nous connaissons, dans lesquelles nous voyons ce qui nous est décrit ici se réaliser encore aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde ces choses, on a l'impression parfois que c'est une mer qui va nous engloutir et nous submerger, nous noyer. Et on pourrait devenir découragé. Alors que faire ? Faisons ce que le psalmiste a fait. Avec ces questions, approchons-nous du Seigneur. Et dans ce psaume, le Seigneur va lui donner, va nous donner la réponse à nos inquiétudes. Parce qu'il va nous donner l'apaisement avec une vision renouvelée de sa souveraineté, de sa maîtrise sur toute chose. Après l'agitation des nations, dans les versets 1 à 3, nous passons à la deuxième strophe qui nous décrit la suprématie de Dieu. Il y a un contraste incroyable entre les trois premiers versets où tout est agité et les trois suivants où nous voyons le calme et la paix du ciel. Qu'est-ce que Dieu fait quand il voit les nations s'agiter ainsi ? Verset 3, il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Alors on doit faire attention à bien comprendre ce verset, parce que si on ne veut pas avoir une idée faussée de Dieu. Quand ce verset nous dit que Dieu rit, il n'est pas en train de nous dire que Dieu se moque de la souffrance de ses enfants affligés, au milieu des nations. Il n'est pas en train de nous dire non plus que Dieu se réjouit avec un certain sadisme de juger les nations arrogantes. Quand le texte nous dit ici que Dieu rit, se moque d'eux, en fait c'est une figure de langage empruntée à notre langage courant, à notre expérience courante, qu'on appelle un anthropomorphisme, pour nous montrer que l'agitation des nations et les complots contre Dieu ne l'atteignent pas et n'entravent en rien sa volonté. Il est là et il rit comme je riais intérieurement quand mes jeunes garçons me défiaient aux échecs. Parce que je savais que leur tactique et leur stratégie, en fait, allait contribuer à ma victoire finale. Ça, c'est quand ils étaient très jeunes. Et quand ils ont commencé à devenir un peu plus forts, c'est moi qui riais plus beaucoup. Hein? Mais au début, c'était comme ça. Hein? Vous voyez, ainsi en est-il des nations. Elles se croient libérées de la tutelle de Dieu, se révoltent contre ses lois, mais en fait, dans leur rage contre lui, elles ne font qu'accomplir son plan. C'est pourquoi nous avons lu ce texte dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 27, où il est dit explicitement, après avoir cité deux versets du psaume 2, « Car en vérité, je cite là, Actes 4, 27, « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël, ça c'est verset 1 à 3 du psaume 2, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. C'est les versets 4 à 7 ici, vous voyez. Ils se sont ligués, pensant qu'ils allaient pouvoir rejeter Dieu et rejeter sa loi et son plan, et en fait, il n'en fait qu'accomplir le plan de Dieu. Si Dieu n'intervient pas tout de suite, dans le chaos de notre monde. Ce n'est pas qu'il soit incapable ou indifférent, mais c'est parce qu'il patiente jusqu'au moment opportun. Dieu rit, parce qu'aucune machination des hommes ne pourra entraver son plan. Et c'est Luther, en commentant ce verset, qui dit « Qui pensa, quand Christ souffrait et que les Juifs triomphaient, que Dieu riait pendant tout ce temps ?» Oui, Dieu ne riait pas de la souffrance de son Fils. Mais c'était une souffrance atroce d'abandonner son Fils sur la croix. Mais il riait dans le sens que ces gens se liguaient contre le Fils et ils ne faisaient qu'accomplir le plan du salut merveilleux. Puis tout à coup, après avoir ri, il parle. Dans ce psaume, il parle très peu. Il dit simplement, verset 6, « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et que produit cette phrase parmi les nations agitées ? Terreur et épouvante. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. Ainsi en est-il, mes chers amis, du Dieu des cieux. Par sa seule parole, il frappe d'épouvante tous ceux qui se liguent contre lui. Il le fait en leur annonçant la venue de son roi et de son royaume, un royaume qui anéantira tous les autres royaumes. C'est l'annonce, ici aussi, de l'arrivée, de la venue de la petite pierre de Daniel, chapitre 2. Vous vous souvenez, cette grande statue en métaux précieux qui semblait pouvoir durer à toujours et qui s'est trouvée frappée et démolie par une petite pierre insignifiante qui l'a atteinte au pied et qui l'a anéantie alors que la pierre grandissait pour devenir un royaume éternel. C'est l'image, vous voyez, de l'insignifiance de la naissance du Fils de Dieu dans une crèche à Bethléem. C'est lui la petite pierre. C'est lui qui, par sa venue, par sa mort, sa résurrection, son ascension, apporte ce royaume éternel qui terrasse toutes les nations. Voilà quelle est la réponse de Dieu à l'arrogance des nations contre lui. Elle se révolte, il envoie son roi, dont David n'était qu'une pâle représentation. Elle se ligue contre lui, il annonce la venue de son règne éternel parmi les hommes. Voilà comment Dieu commence à apaiser notre cœur quand nous venons à lui et nous lui parlons de l'agitation, de l'arrogance du monde. Il nous dit, ne vous inquiétez pas, j'ai parlé et j'ai envoyé mon roi sur Sion. Et nous arrivons à la troisième strophe, dans laquelle nous voyons le roi, cette fois, qui parle de sa mission. On a vu l'agitation des nations, versets 1 à 3, on a vu la suprématie de Dieu, versets 4 à 7, à 6, et maintenant, versets 7 à 9, la mission du roi de gloire. Dans ces versets, vous voyez, c'est le roi qui a été envoyé, qui parle. Et voilà ce qu'il dit. « Je publierai le décret de l'Éternel. Tu m'as dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » Quand on lit ces versets, il est évident que la richesse et l'étendue de ces paroles dépassent la royauté d'un simple roi humain. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'auteur prophétise déjà la venue du Fils de Dieu. C'est un roi dont la venue a un caractère unique. Il nous a dit « Je publierai le décret de l'Éternel ». C'est à cause d'un décret de l'Éternel qu'il est venu dans le monde. On sait tous ce qu'est un décret, parce que le gouvernement français a fonctionné un peu par décret ces derniers temps. C'est une loi irrévocable établie par l'autorité. Et il nous dit, la venue du Fils de Dieu est un décret ou une conséquence du décret de Dieu. Vous voyez, Christ est venu dans le monde parce que Dieu en a décidé ainsi dans l'éternité passée. La venue de Jésus, ce n'est pas un rafistolage de dernière minute quand les choses tournent mal. 2 Timothée 1,9 nous dit « C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus » avant les temps éternels. Dans l'éternité passée, Christ a accepté de venir sur la terre afin de mourir pour la rédemption, le rachat, le salut de tous ceux que le Père lui a donnés. Et il s'est engagé, le Père s'est engagé envers son Fils, à le soutenir, à le qualifier, afin qu'il triomphe de ses ennemis. Et cette phrase prononcée par le Fils au verset 7, « Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui », ne fait pas référence premièrement à la naissance de Jésus, comme on aurait tendance à le croire, mais Paul nous dit qu'elle fait référence à sa résurrection. Acte 13, 33, écoutez ce verset, « Cette promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Vous voyez, le Fils de Dieu prouve sa filiation et sa divinité, bien sûr par ses miracles aussi, mais en particulier par sa résurrection. Parce que lui seul est ressuscité avec un corps qui ne meurt plus. Il n'est pas le premier ressuscité. Il y a eu d'autres miracles de résurrection avant lui, mais il est le premier à être ressuscité avec un corps, avec le corps nouveau, le corps céleste. Ainsi, sa résurrection, par sa résurrection, il y a une sorte d'immission de l'éternité dans notre histoire. Il atteste déjà que le royaume de Dieu est établi dans ce monde et qu'il ira grandissant jusqu'à son retour. C'est un roi dont le caractère est unique, dont la venue a un caractère unique plutôt. C'est un roi avec une mission de salut. Puisque le Fils est venu dans notre monde pour accomplir la rédemption de son peuple, il peut demander au Père ce qu'il veut, et il le lui donne. C'est ce qu'il nous a dit au verset 8. Et que pouvait-il bien demander ? Le Fils a demandé au Père les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. C'est-à-dire qu'il a réclamé au Père la royauté sur l'univers entier. Qu'a-t-il reçu ? Il a reçu un peuple innombrable d'entre toutes les nations, un peuple qu'il a racheté par son sang, un peuple cher à ses yeux, puisqu'il est ce peuple est devenu son épouse, son église, avec laquelle il a une relation de communion intime. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, ce verset nous dit que cela ne vient pas de vous. Si vous êtes chrétien, c'est parce que Christ vous a réclamé à son Père, que le Père vous a donné à son Fils afin qu'il vous sauve, qu'il transforme votre cœur, envoie son esprit en vous. Quel encouragement pour nous, voyez. Les nations s'agitent. On a l'impression parfois que c'est la vague qui va vraiment nous noyer. Mais non. On est dans la main de Dieu. On est sauvé par son roi. Et nul ne peut nous ravir de sa main. Nous aurons part à l'héritage. Nous verrons ce royaume pleinement réalisé, ce royaume du Christ pleinement réalisé lorsqu'il aura pulvérisé tous les autres royaumes. Qu'a-t-il reçu d'autre ? La fin du verset 8 nous dit qu'il a reçu en fait une royauté universelle qui dépasse même l'Église puisqu'elle s'étend aux extrémités de la terre. C'est ce que souligne dans la parole de Dieu l'expression « roi des rois, seigneur des seigneurs » quand elle est appliquée à Jésus. Il n'est pas juste roi, il n'est pas juste un grand roi, il est le roi de tous les rois, le seigneur de tous les seigneurs. Rien n'échappe à son contrôle. C'est un roi, voyez, qu'une mission de salut, mais la fin de cette péricope nous dit aussi que c'est un roi avec une mission de jugement. Verset 9, « Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » Ce verset annonce que lorsque Christ reviendra, il ne viendra pas seulement rassembler son peuple, mais il viendra aussi juger de manière définitive tous ceux qui sont restés dans la révolte, la rébellion contre lui. C'est l'idée du sceptre de fer dont il est dit dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, 15, « De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Il y a une double mission du roi. Il vient sauver et il vient juger. C'est pourquoi si vous êtes encore un croyant ce matin, si vous êtes un membre de ces nations rebelles contre Dieu, qui ignorent Dieu, qui rejettent ses lois, ne pensez pas que vous pourrez mépriser ces lois impunément à toujours. Sachez que Christ est roi. Il est le roi universel. Et si vous ne pliez pas le genou devant lui, vous tomberez sous son jugement. Vous serez brisé par ce sceptre de fer. C'est une nouvelle solennelle, n'est-ce pas? Votre situation est dramatique et sans espoir pour vous. C'est pourquoi ce psaume se termine avec un appel aux nations. C'est la quatrième strophe. Parce que vous voyez, ce qu'on vient d'apprendre, les nations s'agitent, c'est vrai, elles se révoltent contre Dieu. Mais Dieu a répondu en annonçant la venue de son Fils. Il l'a envoyé comme un roi qui sauve et qui jugera. Nécessite de votre part maintenant une réflexion et une réponse. Dans le verset 10, il s'adresse au roi et au juge, mais sans doute qu'il s'adresse à eux en incluant tous les membres de ces nations, et il leur dit, « Maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. » C'est-à-dire, arrêtez-vous et réfléchissez à la lumière de ce que nous venons de comprendre afin d'en tirer des conséquences qui s'imposent pour votre vie. Il est impossible à l'être humain d'échapper à la souveraineté de Dieu et au jugement de son Messie. toutes les puissances du monde, les plus grands empires, les moyens techniques les plus sophistiqués ne peuvent pas l'atteindre et lui nuire. Il accomplira son plan de manière indéfectible. Alors, réfléchissez et agissez maintenant. Verset 10. Maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Ne remettez pas à plus tard. Maintenant que vous êtes éclairé par l'intervention de Dieu, réfléchissez et reconnaissez que votre plan de rébellion contre lui est insensé. Et venez au Seigneur tel que vous êtes, habité de ces deux sentiments qui vous paraissent peut-être contradictoires. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être dans l'allégresse en tremblant? C'est-à-dire d'être joyeux et d'avoir peur en même temps ou d'être craintif en même temps? Ce verset nous dit que c'est une réalité régulière chez le chrétien, d'avoir deux sentiments qui l'animent en même temps. La crainte, parce que Dieu mérite qu'on s'approche toujours de lui avec un grand respect, parce qu'il domine sur les nations, il est le roi glorieux et souverain. C'est pas notre copain dans ce sens-là, mais l'allégresse. Parce que ce roi est en même temps le sauveur de tous ceux qui viennent à lui. Parce qu'il a pourvu à leur salut en envoyant son Fils dans le monde. C'est pourquoi il déclare ici ensuite « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie. » Embrassez le Fils. Embrasser le Fils, c'est faire acte de soumission à son autorité. C'est démontrer votre amour pour lui en lui rendant hommage. C'est se consacrer à son service en retour d'un si grand salut. Embrasser celui que vous avez haï, ignoré ou méprisé, au visage duquel vous avez craché. Cette exhortation peut nous surprendre, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut aller trouver refuge auprès de celui qu'on a méprisé et qui est en colère contre nous? Mais c'est parce que celui qui est en colère contre nous est en même temps celui qui a accompli notre salut et qui nous fait grâce. Saint Augustin disait « Veux-tu fuir la colère de Dieu ? Alors cours te réfugier dans ses bras. » Le seul endroit, voyez, où on puisse être abrité de la colère de Dieu, c'est dans ses bras. Parce que ce Dieu est aussi notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous fait grâce en Christ. Et si vous l'embrassez, alors vous serez heureux. C'est ce que nous dit la fin du verset 12. « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Heureux serez-vous, ou heureux êtes-vous si vous l'avez déjà embrassé. Heureux êtes-vous, serez-vous, car vous vous rendrez compte de la bonté de ce Dieu souverain contre lequel vous étiez révolté. Malgré votre révolte, il vous a aimé au point d'envoyer son Fils pour vous sauver. Heureux, parce que vous découvrirez combien il est bon de vivre en étant réconcilié avec le souverain maître du monde. Heureux, car votre conscience trouvera la paix et vous expérimenterez la douceur et la bonté des lois de Dieu qui vous semblent être des chaînes, mais qui sont des liens, des cordages d'amour par lesquels le Seigneur vous tient affectueusement dans son intimité. Quel repos, n'est-ce pas? pour nous qui voyons les nations agitées et qui nous demandons jusqu'où est-ce que les choses vont aller. Non, le monde n'est pas sans contrôle. Dieu, notre Dieu, est simplement un Dieu beaucoup plus patient que nous ne pouvons l'imaginer envers la méchanceté et la dureté des hommes. Mais, un jour, celui qui est déjà venu pour accomplir le salut reviendra. Il anéantira définitivement tous les royaumes de ce monde et il nous fera entrer tous ceux qui croyons en lui dans ce royaume éternel et glorieux. Ça, c'est l'espérance chrétienne, mes chers amis. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous garde paisibles, quoi qu'il advienne, dans ce monde chaotique et révolté contre Dieu. Gardons confiance, parce que Christ est bien le souverain roi sur les nations. Amen.